Vous êtes en couple, vous préparez votre mariage ou vous venez de vous marier? Dans tous les cas, c'est l'aventure, nous en savons quelque chose. Mariés depuis 4 ans, mais amoureux depuis bien avant, nous vivons chaque jour cette aventure avec une grosse dose de joie, beaucoup d'excitation et de temps en temps une pincée d'appréhension. Nous nous appelons Aurélie et Joseph, et avec le père Pierre-Marie Castagnos, prêtre chez les serviteurs de Jésus et Marie, auteur du livre « Se marier et durer » aux éditions Salvator et grand spécialiste des relations de couple, nous sommes ravis de vous inviter à suivre ce petit parcours de préparation au mariage en 7 épisodes.
Dans ce 6e épisode, nous allons aborder la thématique de la fécondité du couple. Bien entendu, il y a la fécondité par les enfants, mais il y a tellement d'autres fécondités à découvrir. Bonne écoute. Bonjour mon père.
Bonjour Aurélie.
Alors, dans cet épisode du podcast « Se marier et durer », nous allons parler de la fécondité du couple. Alors, la fécondité peut avoir plusieurs compréhensions, plusieurs sens. Il y a évidemment la fécondité dans le sens d'avoir des enfants, d'être fécond, mais il y a d'autres formes de fécondité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu ?
Alors oui, la question de la fécondité du couple, alors on pense tout de suite aux enfants, ce qui est tout à fait naturel, et c'est même un des engagements que l'on prend au moment de se marier, quand vous mariez à l'église. Acceptez-vous de les enfants que vous recevrez, leur donner l'éducation chrétienne, à tel point que quelqu'un qui ne voudrait pas d'enfant, non pas qui ne pourrait pas avoir d'enfant, mais quelqu'un qui ne voudrait pas d'enfant, ne peut pas se marier à l'église. Donc, pour dire que c'est quelque chose... J'ai eu parfois une fois la question et peut-être ça viendra de plus en plus, sauvons la planète, n'ayons pas d'enfant. Ça reste encore minoritaire, en tout cas en France, mais peut-être il y a des pays, je pense plutôt aux pays nordiques, etc., où c'est, pour certains couples, ça peut être une sorte de credo. Et bon, en tout cas, le mariage à l'église catholique n'est pas possible dans ce cas-là. Mais il y a aussi d'autres fécondités. Et là, j'interroge le couple et je pose la question, quel est le charisme de votre couple ? En quoi votre couple va pouvoir porter du fruit ? En quoi votre couple va... D'une certaine manière rayonner autour de vous. Et le fait de poser cette question de la fécondité et de l'engagement aussi du couple autour de lui-même, du rayonnement, de l'accueil, le charisme du couple, c'est aussi une fécondité du couple. D'une certaine manière, de ne pas vivre sur un entre-soi, sur une relation un peu trop exclusive, où le couple se fermerait aux personnes extérieures, ne resterait que dans un entre-soi qui en fait n'aide pas, mais en quoi il peut s'ouvrir à d'autres et voir devenir un couple ressource. C'est quoi un couple ressource ? C'est un couple aussi qui peut porter d'autres couples ou d'autres personnes, avec l'expérience. Une fois qu'on ne reste pas toute sa vie jeune marié, donc vous viendrez à un moment donné avoir de l'expérience, etc. Vous avez eu un certain nombre de cas de vie que vous aurez pu traverser et que vous pourrez être une ressource pour d'autres. Et ça, je pense, c'est une fécondité. Hein, donc d'être attentif à ça, à pouvoir être... de dire qu'il y a plusieurs formes de fécondité, charnelle, mais aussi sociale et spirituelle.
Sur le côté charnel de la fécondité, quelle est la place des relations sexuelles dans le couple ?
Alors évidemment, la question de la sexualité dans le couple, elle est très importante. Je veux dire, d'où aussi l'intérêt, je trouve, là encore une fois, parfois c'est mal compris, mais l'invitation à l'abstinence avant le mariage, qui permet justement que la sexualité ne prenne pas toute la place dans le couple et ne prennent pas d'une certaine manière une place qui viendrait parasiter le discernement en amont des fiançailles, par exemple. Sachant que c'est un engagement. Moi, j'ai pas mal travaillé sur ce qu'on appelle la théologie du corps selon Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça reste encore un peu confidentiel, pas forcément très, très développé. Je retiens plusieurs choses dans la théologie du corps selon Jean-Paul II. C'est, premièrement, le corps a une vocation. Et la vocation du corps, c'est de manifester, de rendre visible ce qui est invisible. Et Jean-Paul II va jusqu'à dire que dans la relation des époux, le corps manifeste l'amour des époux, rend visible, rend charnel l'amour des époux, mais aussi dans le don du Christ à son Église, il y a une manifestation par le corps du Christ qui s'est offert pour nous, etc. Donc le corps a une vocation et le corps, dit la personne, c'est la communion au corps. n'est pas que charnel, c'est la communion à toute la personne de l'autre. C'est, je me souviens comme ça de cette femme d'une soixantaine d'années. Son mari avait une maladie cardiaque, de mémoire, etc. Et il ne pouvait plus avoir de relations sexuelles. Hein, il n'avait plus d'érection, etc. Il ne pouvait plus avoir de relations sexuelles, etc. Bon. Et elle me dit, j'ai l'impression qu'on s'éloigne l'un de l'autre. J'ai l'impression que, alors qu'ils avaient déjà une trentaine d'années de vie de couple, etc., le fait, du coup, dans ces cas-là, dans les cas, par exemple, de maladies ou de panne sexuelle aussi, c'est pas toujours des choses si simples à aborder, avec qui les aborder aussi, de panne sexuelle, qu'est-ce que vous trouvez comme autre langage? Comment le corps peut-il dialoguer et être au service de la communion? C'est-à-dire que comment vos corps, dans la tendresse, dans les massages, moi je suis un grand fan des massages, et aussi avec les enfants par exemple, massez-vous les uns les autres, et les enfants, de faire des massages, parce que quand on est ce massage, on est sur le ventre, et donc du coup, c'est un lieu de communication. Et c'est un lieu du contact avec le corps de l'autre, qui n'est pas sexuel cette fois-ci, hein, mais c'est un lieu de communication, etc. Mais en tout cas, entre époux, je trouve ça intéressant de dire que si, pour X raisons, la sexualité n'est pas au rendez-vous, parce que le couple qui pratique des méthodes naturelles souhaite mettre un holà à la communication de la vie parce qu'ils en sont à deuxième, troisième ou plus d'enfants. Et donc, du coup, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de lien corporel. En tout cas, ce n'est pas quelque chose... Et je trouve que parfois, on voit la dimension justement de la sexualité comme une injonction à jouir, quelque part. Et c'est la difficulté que montre aussi la pornographie, par exemple, hein, qui présente ça. Hein. Et on n'insiste pas sur le corps est au service de la communion. Et donc, du coup, d'avoir des relations intimes, c'est quelque chose qui rapproche. Et moi, je vois ça comme une célébration, c'est une ratification du sacrement, du oui que vous vous êtes donné devant l'autel. Je trouve que ça va jusque-là. Il y a une dimension, même, on peut dire, spirituelle, d'une certaine manière. Vous vous redonnez l'un à l'autre, comme vous vous êtes donné l'un à l'autre dans le oui au moment du sacrement de mariage. Je vois ça comme une sorte de célébration.
On entend bien que la relation sexuelle est intimement liée avec la transmission de la vie. Dans quelle mesure est-ce qu'il peut être considéré comme égoïste de ne pas vouloir d'enfant tout de suite après le mariage, de vouloir temporiser un peu?
Temporiser, ça, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense que les couples, faisons d'abord confiance aux couples. Ils, eux-mêmes sont les mieux placés. Si vous formez un couple, par exemple, à 23 ans et que vous n'avez pas encore fini vos études, etc., on peut complètement comprendre que vous voulez temporiser. Ou si vous êtes dans le démarrage de votre vie professionnelle et du coup, on comprend aussi que vous ne vouliez pas tout de suite avoir... Là-dessus, je pense que c'est bien de s'interroger, mais c'est bien aussi de faire confiance au couple qu'ils ont aussi le Saint-Esprit. Il n'y a pas que les prêtres qui ont le Saint-Esprit, grâce à Dieu. Et donc, qui s'interrogent, mais c'est vrai qu'à un moment donné, qui posent la question devant le Seigneur et dans leur vie de prière, qui posent la question, est-ce que... est-ce qu'on a les moyens matériels, parce qu'on a parlé justement de la question de l'argent, est-ce qu'on a les moyens matériels d'éduquer, d'être une maternité responsable, est-ce qu'on a l'énergie, parce que c'est vrai que c'est une énergie considérable, des petits en bas âge, etc. Donc, et du coup, est-ce qu'on a quelqu'un qui a 36 ou qui s'est marié sur le tard, 37 ans, 38 ans, etc., de se remettre dans les couches, de se remettre dans les poussettes, c'est pas quand on avait 30 ans, donc ça c'est clairement... Il y a un certain nombre de questions à se poser, hein, et à la fois une générosité, et à la fois un accueil de ce qui est peut-être pas prévu. Voilà, l'enfant qui arrive, qui n'est pas... Parce qu'on est aussi dans une société où tout doit être planifié, du contrôle, du risque zéro, vous voyez, des choses comme ça, etc. Je trouve qu'il est bon... est-ce qu'on laisse ouvert la porte à ce que... Un enfant arrive, frappe à la porte sans forcément crier gare, quoi. Donc,
Toujours sur le sujet des enfants, il arrive que des couples ne puissent pas avoir d'enfants. Il arrive que des enfants soient porteurs d'un handicap, d'une maladie. Et du coup, comment est-ce qu'on fait en tant que fiancé pour se préparer à ces éventualités?
Alors, comme fiancé, je pense que Déjà, si on sait que l'un ou l'autre ne pourra pas avoir d'enfant, il est évident qu'on doit le dire à l'autre. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça ne fait pas partie du jardin secret, ça. Ça fait partie des choses que l'on doit dire absolument à l'autre, que j'ai une maladie qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant. Et donc, du coup, d'envisager la question de l'adoption, d'envisager la question... Voilà, la question de l'enfant handicapé, pour le coup, on ne peut pas trop prévoir, etc. Ça arrive. Moi, je dis simplement une chose. Restez pas seul dans ces deux cas-là. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul face au pouvoir médical qui, dans le cadre d'un enfant handicapé, directement vous tendra une ordonnance pour une IVG. Direct, sans même parfois voir une injonction, pour le coup. Ne restez pas seul face aux questions de stérilité ou d'hypofécondité. Ce n'est pas forcément de stérilité complète. Il y a ce qu'on appelle l'hypofécondité, une difficulté à avoir des enfants. On voit que ça touche de plus en plus de cas. Et je trouve qu'il y a des techniques qui sont développées, etc., qui sont intéressantes justement pour permettre au corps de pouvoir avoir des enfants, etc. Donc, et la question de l'adoption. Est-ce que vous, comment vous voyez ça, comment d'envisager ça. Et puis, je veux dire, l'adoption, moi, je pose toujours la question, ayant vos propres enfants, êtes-vous disposé à adopter? Parce que l'adoption, ce n'est pas donner des enfants à des parents. L'adoption, c'est donner des parents à des enfants. C'est rentrer dans une logique d'amour, de don. Ce n'est pas juste, je n'ai pas un enfant, je prends l'enfant d'un autre. Je prête le service de l'éducation à quelqu'un qui en a été privé d'une manière ou d'une autre, parce que la guerre, parce que l'abandon, parce que, bon, X situation. En tout cas, c'est des choses qu'il faut, en amont du mariage, aborder et savoir un peu la position des uns et des autres, quoi.
On a déjà entendu, enfin du moins pour ma part, plusieurs fois, des couples fiancés ou non fiancés dire « une des conditions pour que je t'épouse est que tu sois fertile ». Dans ce cadre-là, je te demande donc de faire un test de fertilité. Et s'il s'avère qu'il est négatif, ciao, bonsoir. Ce genre de pratique, comment réagir ?
Je suis mal à l'aise avec ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, c'est pas forcément le texte de fécondité, bon, mais parce que ça peut... Encore une fois, on voit des couples où les deux sont féconds et l'enfant n'arrive pas. Donc, ce n'est pas forcément là que ça se passe. Moi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je veux que tu répondes à mes exigences. Je veux être dans le contrôle. Je veux qu'il n'y ait pas d'imprévu. Je veux que... c'est ça le couple que vous voulez former. C'est mon programme qui va se dérouler. C'est une certaine toute puissance sur l'autre. C'est, je trouve, au rebours de l'amour qui est au contraire un lâcher prise. On se donne l'un à l'autre. De quoi sera fait la vie, on ne sait pas, mais on sait avec qui on la vivra. Et c'est ça qui est important. Je veux vivre la vie avec toi. Je veux vivre la vie avec toi et le Seigneur qui est au cœur de notre vie. C'est ça qui est important. Comment ça se fera ensuite ? C'est la question que Marie pose à l'ange. Comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais pas d'homme, je n'ai pas eu de relation intime avec des hommes. C'est ça que ça veut dire dans la Bible, connaître. Je ne connais pas d'homme. Voilà, c'est juste... mais le fait de vouloir à tout prix... Parce que du coup, on peut aller plus loin. Est-ce que tu n'es pas porteur d'une maladie génétique ? Du coup, c'est un autre test. Est-ce que tu n'es pas porteur de ceci, de cela ? Parce que du coup, les maladies génétiques, peut-être, chacun peut être, on ne peut être pas porteur, mais les deux ensemble peuvent engendrer un enfant avec une maladie. Donc, vous voyez, on est dans le... mais qui est vraiment dans cette mentalité, je trouve, de contrôle, l'enfant idéal, peut-être, l'injonction à la réussite, à être successful pour tout, même pour les enfants, et du coup, ne pas laisser la place, peut-être, à une part de difficulté, de pénibilité que le couple peut aussi accueillir, et qu'il vivra différemment, évidemment, quand il est mu par la foi. Ça, c'est sûr, ça, c'est quelque chose qui est différent.
Donc le sacrement du mariage est vraiment à prendre comme un nouvel abandon de soi-même.
Ah, complètement.
À la Providence. On s'en
remet à la Providence après avoir discerné. À voir, est-ce que je peux vivre avec le caractère des autres, de l'autre, tout ce qu'on a vu dans les premiers podcasts, etc., pas avoir vu, etc. À un moment donné, c'est vous vous remettez ensemble au Seigneur. Les choses, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui arrivera est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une troisième guerre mondiale? On n'en sait rien, avec toutes les conséquences que ça a sur les familles. Regardez des familles qui sont complètement bousculées de part et d'autre, on voit en ce moment en Afghanistan, etc. On voit des femmes avec des enfants, on voit des enfants qui sont jetés par-dessus les barrières des ambassades pour que. C'est absolument affolant, je veux dire. Donc, ces femmes-là, elles ne sont pas meilleures, moins bonnes femmes et moins bonnes mères de famille que les autres. C'est les circonstances. Et je trouve que c'est ça la force du couple chrétien qui a mis vraiment le Seigneur au centre. C'est que il y a cet abandon à la providence qui fait que ce lâcher-prise n'est pas vu comme une menace. Et j'essaierai de tirer parti de ce que je n'ai pas prévu. On parle de la fécondité, mais il y a des tas d'autres choses. Il y a des temps de chômage aussi. On l'a pas évoqué au moment de la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait quand l'un ou l'autre est au chômage et peut-être met en difficulté le couple au plan financier? Bon, il y a des tas de choses que l'on n'a pas prévues, mais c'est pas tellement ça la question. C'est avec ce que je n'ai pas prévu, ces circonstances et ces nécessités, c'est-à-dire des choses qui s'imposent à moi, que je n'ai pas choisies, en quoi elles peuvent devenir des maîtres spirituels.
Vous l'avez évoqué très rapidement au début de cet épisode, le risque de se refermer sur soi. Il est très fort, surtout quand on est jeune marié, quand on est jeune amoureux, puis quand on est jeune parent aussi. Ça vient très vite, en fait, de se créer une petite bulle d'amour, de cocooning, une soirée série tisane sous la couette. Ça va très vite. Comment faire, justement, pour garder une vraie ouverture du cœur? Non seulement une ouverture du cœur aux autres, mais aussi une ouverture du cœur à ce que la Providence nous prépare et est-ce qu'on soit prêt à vivre tout ce que vous nous dites aussi?
Déjà, je trouve que c'est ce que vous dites de la question du cocooning, etc., d'une petite boule d'amour, etc. C'est, je pense, une étape qui est un peu indispensable au début du couple, que le couple, surtout les couples qui n'ont pas cohabité avant le mariage, etc., débutent leur vie intime, débutent leur vie commune, commencent évidemment le premier enfant, etc. Du coup, il y a besoin un peu de ce moment. Là où c'est plus difficile, c'est quand on sent que ça s'installe comme un mode de fonctionner. Quand on voit que cet entre-soi, ça devient... j'ai eu des appels et je ne me suis pas laissé sortir de ma zone de confort. Alors que j'aurais pu. J'aurais pu me laisser bousculer, j'aurais pu peut-être être plus généreux dans telle ou telle attitude, dans telle demande qui vient d'une association, qui vient de la paroisse, que sais-je, qui vient des membres de ma famille. C'est ce qu'on appelle le péché par omission, vous savez, quand on parle dans le « Je confesse à Dieu », péché par omission, c'est le bien qu'on aurait pu faire, qu'on a vu, qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas voulu faire, parce que juste ça nous saoulait, quoi. Et donc, du coup, ça, je crois que c'est quelque chose auquel chacun, chaque chrétien, chaque homme et femme de bonne volonté doit être attentif, hein, dans son cœur. Je veux dire, en particulier comme couple, parce que c'est comme vous dites, il y a le risque d'un refermement, d'un enfermement sur soi, qui est peut-être plus vrai pour le couple, surtout avec un enfant, etc. Bon, ça peut être une étape, mais que ça ne s'installe pas comme un mode de fonctionner.
Merci beaucoup.
Merci.